Lettre 19. Usbek à son ami Rustan, à Ispahan. Nous n'avons séjourné que 8 jours à Toka. Après 35 jours de marche, nous sommes arrivés à Smyrne. De Toka à Smyrne, on ne trouve pas une seule ville qui mérite qu'on la nomme. J'ai vu avec étonnement la faiblesse de l'empire des ossements là. Ce corps malade ne se soutient pas par un régime doux et tempéré, mais par des remèdes violents qui l'épuise et le mine sans cesse. Les pachas, qui n'obtiennent leurs emplois qu'à force d'argent, entrent ruinés dans les provinces et les ravagent comme des pays de conquête. Une milice insolente n'est soumise qu'à ses caprices. Les places sont démantelées, les villes désertes, les campagnes désolées, la culture des terres et le commerce entièrement abandonnés. L'impunité règne dans ce gouvernement sévère. Les chrétiens qui cultivent les terres, les juifs qui lèvent les tribus, sont exposés à 1000 violences. La propriété des terres est incertaine, et par conséquent, l'ardeur de les faire valoir ralentit. Il n'y a ni titre ni possession qui vaille contre le caprice de ceux qui gouvernent. Ces barbares ont tellement abandonné les arts qu'ils ont négligé jusque à l'art militaire. Pendant que les nations d'Europe se raffinent tous les jours, ils restent dans leur ancienne ignorance, et ils ne s'avisent de prendre leurs nouvelles inventions qu'après qu'elles s'en sont servies 1000 fois contre eux. Ils n'ont nulle expérience sur la mer, nulle d'habilité dans la manœuvre. On dit qu'une poignée de chrétiens sortis d'un rocher font suer tous les Ottomans et fatiguent leur empire. Incapables de faire le commerce, ils souffrent presque avec peine que les Européens, toujours laborieux et entreprenants, viennent le faire. Ils croient faire grâce à ces étrangers de permettre qu'ils les enrichissent. Dans toute cette vaste étendue de pays que j'ai traversée, je n'ai trouvé que Smyrne, qu'on puisse regarder comme une ville riche et puissante. Ce sont les Européens qui la rendent telle, et il ne tient pas aux Turcs qu'elle ne ressemble à toutes les autres. Voilà, cher Rustan, une juste idée de cet empire, qui, avant 2 siècles, sera le théâtre des triomphes de quelques conquérants. À Smyrne, le 2 de la lune de Ramazan, 1711. Lettre 20. Usbek à Zaki, sa femme, au sérail d'Ispahan. Vous m'avez offensé, Zaki. Et je sens dans mon cœur des mouvements que vous devriez craindre, si mon éloignement ne vous laissait le temps de changer de conduite et d'apaiser la violente jalousie dont je suis tourmentée. J'apprends qu'on vous a trouvé seul avec Nadir, eunuque blanc, qui paiera de sa tête son infidélité et sa perfidie. Comment vous êtes-vous oublié jusqu'à ne pas sentir qu'il ne vous est pas permis de recevoir dans votre chambre un eunuque blanc, tandis que vous en avez de noirs destinés à vous servir? Vous avez beau me dire que des eunuques ne sont pas des hommes, et que votre vertu vous met au-dessus des pensées que pourrait faire naître en vous une ressemblance imparfaite, cela ne suffit ni pour vous ni pour moi. Pour vous, parce que vous faites une chose que les lois du sérail vous défendent. Pour moi, en ce que vous m'ôtez l'honneur en vous exposant à des regards. Que dis-je, à des regards? Peut-être aux entreprises d'un perfide qui vous aura souillé par ses crimes, et plus encore par ses regrets et le désespoir de son impuissance. Vous me direz peut-être que vous m'avez été toujours fidèle. Et pouviez-vous ne l'être pas? Comment auriez-vous trompé la vigilance des eunuques noirs, qui sont si surpris de la vie que vous menez? Comment auriez-vous pu briser ces verrous et ces portes qui vous tiennent enfermés? Vous vous vantez d'une vertu qui n'est pas libre. Et peut-être que vos désirs impurs vous ont ôté 1000 fois le mérite et le prix de cette fidélité que vous vantez tant. Je veux que vous n'ayez point fait tout ce que j'ai lieu de soupçonner, que ce perfide n'ait point porté sur vous ses mains sacrilèges, que vous ayez refusé de prodiguer à sa vue les délices de son maître, que, couverte de vos habits, vous ayez laissé cette faible barrière entre lui et vous, que, frappé lui-même d'un saint respect, il ait baissé les yeux, que, manquant à sa hardiesse, il ait tremblé sur les châtiments qu'il se prépare. Quand tout cela serait vrai, il ne l'est pas moins que vous avez fait une chose qui est contre votre devoir, Et si vous l'avez violé gratuitement sans remplir vos inclinations déréglées, qu'eussiez-vous fait pour les satisfaire? Que feriez-vous encore si vous pouviez sortir de ce lieu sacré, qui est pour vous une dure prison, comme il est pour vos compagnes un asile favorable contre les atteintes du vice, un temple sacré où votre sexe perd sa faiblesse et se trouve invincible, malgré tous les désavantages de la nature? Que feriez-vous si, laissé à vous-même, vous n'aviez pour vous défendre que votre amour pour moi, qui est si grièvement offensé, et votre devoir, que vous avez si indignement trahi? Que les mœurs du pays où vous vivez sont saintes, qui vous arrachent aux attentats des plus vils esclaves. Vous devez me rendre grâce de la gêne où je vous fais vivre, puisque ce n'est que par là que vous méritez encore de vivre. Vous ne pouvez souffrir le chef des eunuques, parce qu'il a toujours les yeux sur votre conduite et qu'il vous donne ses sages conseils. Sa laideur, dites-vous, est si grande que vous ne pouvez le voir sans peine. Comme si, dans ces sortes de postes, on mettait de plus beaux objets. Ce qui vous afflige est de n'avoir pas à sa place le nuque blanc qui vous déshonore. Mais que vous a fait votre première esclave? Elle vous a dit que les familiarités que vous preniez avec la jeune Zélide étaient contre la bienséance. Voilà la raison de votre haine. Je devrais être, Zaki, un juge sévère. Je ne suis qu'un époux qui cherche à vous trouver innocente. L'amour que j'ai pour Roxane, ma nouvelle épouse, m'a laissé toute la tendresse que je dois avoir pour vous, qui n'êtes pas moins belle. Je partage mon amour entre vous deux, et Roxane n'a d'autre avantage que celui que la vertu peut ajouter à la beauté. À Smyrne, le 12 de la lune de Zilkadé, 1711. Lettre 21. Usbek au premier eunuque blanc. Vous devez trembler à l'ouverture de cette lettre. Ou plutôt vous le deviez lorsque vous souffrîtes la perfidie de Nadir. Vous qui, dans une vieillesse froide et languissante, ne pouvez sans crime lever les yeux sur les redoutables objets de mon amour. Vous à qui il n'est jamais permis de mettre un pied sacrilège sur la porte du lieu terrible qui les dérobe à tous les regards. Vous souffrez que ceux dont la conduite vous est confiée aient fait ce que vous n'auriez pas la témérité de faire, et vous n'apercevez pas la foudre toute prête à tomber sur eux et sur vous. Et qui êtes-vous? Que de vils instruments que je puis briser à ma fantaisie, qui n'existez qu'autant que vous savez obéir, qui n'êtes dans le monde que pour vivre sous mes lois ou pour mourir dès que je l'ordonne, qui ne respirez qu'autant que mon bonheur, mon amour, ma jalousie même, ont besoin de votre bassesse. Et enfin, qui ne pouvez avoir d'autre partage que la soumission, d'autre âme que mes volontés, d'autre espérance que ma félicité. Je sais que quelques-unes de mes femmes souffrent impatiemment les lois austères du devoir, que la présence continuelle d'un eunuque noir les ennuie, qu'elles sont fatiguées de ces objets affreux qui leur sont donnés pour les ramener à leur époux. Je le sais. Mais vous, qui vous prêtez à ce désordre, vous serez puni d'une manière à faire trembler tous ceux qui abusent de ma confiance. Je jure par tous les prophètes du ciel, et par Ali, le plus grand de tous, que si vous vous écartez de votre devoir, je regarderai votre vie comme celle des insectes que je trouve sous mes pieds. À Smyrne, le 12 de la lune de Zilkadé, 1711. Lettre 22, Jaron au premier eunuque. À mesure qu'Usbek s'éloigne du sérail, il tourne sa tête vers ses femmes sacrées. Il soupire, il verse des larmes, sa douleur s'aigrit, ses soupçons se fortifient. Il veut augmenter le nombre de leurs gardiens. Il va me renvoyer avec tous les noirs qui l'accompagnent. Il ne craint plus pour lui, il craint pour ce qui lui est mille fois plus cher que lui-même. Je vais donc vivre sous tes lois et partager tes soins. Grand Dieu, qu'il faut de choses pour rendre un seul homme heureux! La nature semblait avoir mis les femmes dans la dépendance et les en avoir retirées. Le désordre naissait entre les deux sexes parce que leurs droits étaient réciproques. Nous sommes entrés dans le plan d'une nouvelle harmonie. Nous avons mis entre les femmes et nous la haine, et entre les hommes et les femmes, l'amour. Mon front va devenir sévère. Je laisserai tomber des regards sombres. La joie fuira de mes lèvres. Le dehors sera tranquille et l'esprit inquiet. Je n'atteindrai point les rides de la vieillesse pour en montrer les chagrins. J'aurais eu du plaisir à suivre mon maître dans l'Occident, mais ma volonté est son bien. Il veut que je garde ses femmes. Je les garderai avec fidélité. Je sais comment je dois me conduire avec ce sexe, qui, quand on ne lui permet pas d'être vain, commence à devenir superbe, et qu'il est moins aisé d'humilier que d'anéantir. Je tombe sous tes regards. De Smyrne, le 12 de la lune de Zilkadé, 1711. Lettre 23. Usbek à son ami Ibn. Nous sommes arrivés à Livourne, dans 40 jours de navigation. C'est une ville nouvelle. Elle est un témoignage du génie des ducs de Toscane, qui ont fait d'un village marécageux la ville d'Italie la plus florissante. Les femmes y jouissent d'une grande liberté. Elles peuvent voir les hommes à travers certaines fenêtres qu'on nomme jalousies. Elles peuvent sortir tous les jours avec quelques vieilles qui les accompagnent. Elles n'ont qu'un voile. Leurs beaux-frères, leurs oncles, leurs neveux peuvent les voir sans que le mari s'en formalise presque jamais. C'est un grand spectacle pour un mahométan de voir pour la première fois une ville chrétienne. Je ne parle pas des choses qui frappent d'abord tous les yeux, comme la différence des édifices, des habits, des principales coutumes. Il y a, jusque dans les moindres bagatelles, quelque chose de singulier que je sens et que je ne sais pas dire. Nous partirons demain pour Marseille. Notre séjour n'y sera pas long. Le dessein de Rica et le mien est de nous rendre incessamment à Paris, qui est le siège de l'Empire d'Europe. Les voyageurs cherchent toujours les grandes villes, qui sont une espèce de patrie commune à tous les étrangers. Adieu. Sois persuadé que je t'aimerai toujours. À Livourne, le 12 de la lune de Safar, 1712. Lettre 24. Rica à Ibn, à Smyrne. Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois. Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a 6 ou 7 maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Tu ne le croirais pas, peut-être. Depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leurs machines que les Français. Ils courent, ils volent, les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien. Car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête. Mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour, et un autre qui me croise de l'autre côté me remet soudain où le premier m'avait pris. Et je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisée que si j'avais fait 10 lieues. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or, comme le roi d'Espagne son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre. Et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un 1 000 000 d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de 2, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut 2, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tantôt il lui fait croire que 3 ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et 1 000 autres choses de cette espèce. Et pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps, pour l'exercer, de certains articles de croyance. Il y a 2 ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela « Constitution » et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte qui divise toute la cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel. C'est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la Constitution. Elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilèges. On doit pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal. Et par le grand Ali, il faut qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi. Car, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre, et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du paradis? J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu ne balances à les croire. On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins, qui s'étaient tous ligués contre lui, il avait dans son royaume un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouraient. On ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de 30 ans, et que, malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n'en a pas trouvé un seul. Ils vivent avec lui, ils sont à la cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux. Et cependant, on dit qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils existent en général et qu'ils ne sont plus rien en particulier. C'est un corps, mais point de membres. Sans doute que le ciel veut punir ce prince de n'avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu'il a vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles, et dont le génie et le destin sont au-dessus du sien. Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses bien éloignées du caractère et du génie persan. C'est bien la même terre qui nous porte tous deux, mais les hommes du pays où je vis et ceux du pays où tu es sont des hommes bien différents. De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712. Lettre 25. Usbek à Ibn à Smyrne. J'ai reçu une lettre de ton neveu Redi. Il me mande qu'il quitte Smyrne dans le dessein de voir l'Italie, que l'unique but de son voyage est de s'instruire et de se rendre par là plus digne de toi. Je te félicite d'avoir un neveu qui sera quelque jour la consolation de ta vieillesse. Rika t'écrit une longue lettre. Il m'a dit qu'il te parlait beaucoup de ce pays-ci. La vivacité de son esprit fait qu'il saisit tout avec promptitude. Pour moi, qui pense plus lentement, je ne suis en état de te rien dire. Tu es le sujet de nos conversations les plus tendres. Nous ne pouvons assez parler du bon accueil que tu nous as fait à Smyrne et des services que ton amitié nous rend tous les jours. Puisses-tu, généreux Ibben, trouver partout des amis aussi reconnaissants et aussi fidèles que nous. Puissais-je te revoir bientôt et retrouver avec toi ces jours heureux qui coulent si doucement entre deux amis. Adieu. De Paris, le 4 de la lune de Rebiab II, 1712. Lettre 26, Usbek à Roxane. Au sérail d'Ispahan. Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le doux pays de Perse, et non pas dans ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur ni la vertu. Que vous êtes heureuse. Vous vivez dans mon sérail comme dans le séjour de l'innocence, inaccessible aux attentats de tous les humains. Vous vous trouvez avec joie dans une heureuse impuissance de faillir. Jamais homme ne vous a souillé de ses regards lascifs. Votre beau-père même, dans la liberté des festins, n'a jamais vu votre belle bouche. Vous n'avez jamais manqué de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. Heureuse Roxane, quand vous avez été à la campagne, vous avez toujours eu des eunuques qui ont marché devant vous pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont pas fui à votre vue. Moi-même, à qui le ciel vous a donné pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me rendre maître de ce trésor que vous défendiez avec tant de constance. Quel chagrin pour moi, dans les premiers jours de notre mariage, de ne pas vous voir, et quelle impatience quand je vous eus vu. Vous ne la satisfaisiez pourtant pas, vous l'irritiez, au contraire, par les refus obstinés d'une pudeur alarmée. Vous me confondiez avec tous ces hommes à qui vous vous cachez sans cesse. Vous souvient-il de ce jour où je vous perdis parmi vos esclaves, qui me trahirent et vous dérobèrent à mes recherches? Vous souvient-il de cet autre où, voyant vos larmes impuissantes, vous employâtes l'autorité de votre mère pour arrêter les fureurs de mon amour? Vous souvient-il, lorsque toutes les ressources vous manquèrent, de celles que vous trouvâtes dans votre courage? Vous mîtes le poignard à la main et menaçâtes d'immoler un époux qui vous aimait s'il continuait à exiger de vous ce que vous chérissiez plus que votre époux même. 2 mois se passèrent dans ce combat de l'amour et de la vertu. Vous poussâtes trop loin vos chastes scrupules. Vous ne vous rendîtes pas même après avoir été vaincu. Vous défendîtes jusqu'à la dernière extrémité une virginité mourante. Vous me regardâtes comme un ennemi qui vous avait fait un outrage, non pas comme un époux qui vous avait aimé. Vous fûtes plus de 3 mois que vous n'osiez me regarder sans rougir. Votre air confus semblait me reprocher l'avantage que j'avais pris. Je n'avais pas même une possession tranquille. Vous me dérobiez tout ce que vous pouviez de ses charmes et de ses grâces, et j'étais enivré des plus grandes faveurs sans avoir obtenu les moindres. Si vous aviez été élevé dans ce pays-ci, vous n'auriez pas été si troublé. Les femmes y ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite. Elles les cherchent de leurs regards. Elles les voient dans les mosquées, les promenades, chez elles-mêmes. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer. Oui, Roxane, si vous étiez ici, vous vous sentiriez outragé dans l'affreuse ignominie où votre sexe est descendu. Vous fuiriez ces abominables lieux et vous soupireriez pour cette douce retraite où vous trouvez l'innocence, où vous êtes sûr de vous-même, où nul péril ne vous fait trembler, où enfin vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre jamais l'amour que vous me devez. Quand vous relevez l'éclat de votre teint par les plus belles couleurs, quand vous vous parfumez tout le corps des essences les plus précieuses, quand vous vous parez de vos plus beaux habits, Quand vous cherchez à vous distinguer de vos compagnes par les grâces de la danse et par la douceur de votre chant, que vous combattez gracieusement avec elles de charme, de douceur et d'enjouement, je ne puis pas m'imaginer que vous ayez d'autre objet que celui de me plaire. Et quand je vous vois rougir modestement, que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez dans mon cœur par des paroles douces et flatteuses, je ne saurais, Roxane, douter de votre amour. Mais que puis-je penser des femmes d'Europe? L'art de composer, leur teint, les ornements dont elles se parent, les soins qu'elles prennent de leur personne, le désir continuel de plaire qui les occupe, sont autant de tâches faites à leur vertu et d'outrages à leur époux. Ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elle pousse l'attentat aussi loin qu'une pareille conduite devrait le faire croire, et qu'elle porte la débauche à cet excès horrible qui fait frémir de violer absolument la foi conjugale. Il y a bien peu de femmes assez abandonnées pour porter le crime si loin. Elles portent toutes dans leur cœur un certain caractère de vertu qui y est gravé, que la naissance donne et que l'éducation affaiblit, mais ne détruit pas. Elles peuvent bien se relâcher des devoirs extérieurs que la pudeur exige, mais quand il s'agit de faire les derniers pas, la nature se révolte. Aussi, quand nous vous enfermons si étroitement, que nous vous faisons garder par tant d'esclaves, que nous gênons si fort vos désirs lorsqu'ils volent trop loin, ce n'est pas que nous craignons la dernière infidélité. Mais c'est que nous savons que la pureté ne saurait être trop grande et que la moindre tâche peut la corrompre. Je vous plains, Roxane. Votre chasteté, si longtemps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût jamais quitté et qui put lui-même réprimer les désirs que votre seule vertu sait soumettre. De Paris, le 7 de la lune de Régeb, 1712. Lettre 27. Usbek à Nessir, à Ispahan. Nous sommes à présent à Paris, cette superbe rivale de la ville du soleil. Lorsque je partis de Smyrne, je chargeai mon ami Ibn de te faire tenir une boîte où il y avait quelques présents pour toi. Tu recevras cette lettre par la même voie. Quoiqu'éloigné de lui de 500 ou 600 lieues, je lui donne de mes nouvelles, et je reçois des siennes, aussi facilement que s'il était à Ispahan et moi à Com. J'envoie mes lettres à Marseille, d'où il part continuellement des vaisseaux pour Smyrne. De là, il envoie celles qui sont pour la Perse par les caravanes d'Arméniens qui partent tous les jours pour Ispahan. Rika jouit d'une santé parfaite. La force de sa constitution, sa jeunesse et sa gaieté naturelle le mettent au-dessus de toutes les épreuves. Mais pour moi, je ne me porte pas bien. Mon esprit et mon corps sont abattus. Je me livre à des réflexions qui deviennent tous les jours plus tristes. Ma santé, qui s'affaiblit, me tourne vers ma patrie et me rend ce pays-ci plus étranger. Mais, cher Nessir, je te conjure, fais en sorte que mes femmes ignorent l'état où je suis. Si elles m'aiment, je veux épargner leurs larmes, et si elles ne m'aiment pas, je ne veux point augmenter leur hardiesse. Si mes eunuques me croyaient en danger, s'ils pouvaient espérer l'impunité d'une lâche complaisance, ils cesseraient bientôt d'être sourds à la voix flatteuse de ce sexe qui se fait entendre aux rochers et remue les choses inanimées. Adieu, Nessir. J'ai du plaisir à te donner des marques de ma confiance. De Paris, le 5 de la lune de Chaban, 1712. Lettre 28. Rika à Je vis hier une chose assez singulière, quoiqu'elle se passe tous les jours à Paris. Tout le peuple s'assemble sur la fin de l'après-midi et va jouer une espèce de scène que j'ai entendu appeler comédie. Le grand mouvement est sur une estrade qu'on nomme le théâtre. Aux deux côtés, on voit dans de petits réduits qu'on nomme loges des hommes et des femmes qui jouent ensemble des scènes muettes, à peu près comme celles qui sont en usage en notre Perse. Ici, c'est une amante affligée qui exprime sa langueur. Une autre, plus animée, dévore des yeux son amant, qui la regarde de même. Toutes les passions sont peintes sur les visages et exprimées avec une éloquence qui, pour être muette, n'en est que plus vive. Là, les actrices ne paraissent qu'à demi-corps et ont ordinairement un manchon, par modestie, pour cacher leurs bras. Il y a en bas une troupe de gens, debout, qui se moquent de ceux qui sont en haut sur le théâtre, et ces derniers rient à leur tour de ceux qui sont en bas. Mais ceux qui prennent le plus de peine sont quelques gens qu'on prend pour cet effet dans un âge peu avancé pour soutenir la fatigue. Ils sont obligés d'être partout. Ils passent par des endroits que seuls connaissent, montent avec une adresse surprenante d'étage en étage. Ils sont en haut, en bas, dans toutes les loges. Ils plongent, pour ainsi dire. On les perd, ils reparaissent. Souvent, ils quittent le lieu de la scène et vont jouer dans un autre. On en voit même qui, par un prodige qu'on aurait osé espérer de leur béquille, marchent et vont comme les autres. Enfin, on se rend à des salles où l'on joue une comédie particulière. On commence par des révérences, on continue par des embrassades. On dit que la connaissance la plus légère met un homme en droit d'en étouffer un autre. Il semble que le lieu inspire de la tendresse. En effet, on dit que les princesses qui y règnent ne sont point cruelles, et si on en accepte 2 ou 3 heures du jour où elles sont assez sauvages, on peut dire que le reste du temps elles sont traitables, et que c'est une ivresse qui les quitte aisément. Tout ce que je te dis ici se passe à peu près de même dans un autre endroit qu'on nomme l'opéra. Toute la différence est qu'on parle à l'un et que l'on chante à l'autre. Un de mes amis me mena l'autre jour dans la loge où se déshabillait une des principales actrices. Nous fîmes si bien connaissance que le lendemain je reçus d'elle 7 lettres. « Monsieur, je suis la plus malheureuse fille du monde. » J'ai toujours été la plus vertueuse actrice de l'opéra. Il y a 7 ou 8 mois que j'étais dans la loge où vous me vîtes hier. Comme je m'habillais en prêtresse de Diane, un jeune abbé vint m'y trouver. Et, sans respect pour mon habit blanc, mon voile et mon bandeau, il me ravit mon innocence. J'ai beau exagérer le sacrifice que je lui ai fait, il se met à rire et me soutient qu'il m'a trouvée très profane. Cependant, je suis si grosse que je n'ose plus me présenter sur le théâtre, car je suis, sur le chapitre de l'honneur, d'une délicatesse inconcevable. Et je soutiens toujours qu'à une fille bien née, il est plus facile de faire perdre la vertu que la modestie. Avec cette délicatesse, vous jugez bien que ce jeune abbé n'eût jamais réussi s'il ne m'avait promis de se marier avec moi. Un motif si légitime me fit passer sur les petites formalités ordinaires et commencer par où j'aurais dû finir. Mais, puisque son infidélité m'a déshonorée, je ne veux plus vivre à l'opéra, où, entre vous et moi, l'on ne me donne guère de quoi vivre, car à présent que j'avance en âge et que je perds du côté des charmes, ma pension, qui est toujours la même, semble diminuer tous les jours. J'ai appris, par un homme de votre suite, que l'on faisait un cas infini dans votre pays d'une bonne danseuse, et que, si j'étais à Ispahan, ma fortune serait aussitôt faite. Si vous vouliez m'accorder votre protection et m'emmener avec vous dans ce pays-là, vous auriez l'avantage de faire du bien à une fille qui, par sa vertu et sa conduite, ne se rendrait pas indigne de vos bontés. Je suis... De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1712. Lettre 29. Rika à Ibn à Smyrne. Le pape est le chef des chrétiens. C'est une vieille idole qu'on encense par habitude. Il était autrefois redoutable aux princes même, car il les déposait aussi facilement que nos magnifiques sultans déposent les rois d'Irimette et de Georgie. Mais on ne le craint plus. Il se dit successeur d'un des premiers chrétiens qu'on appelle Saint-Pierre. Et c'est certainement une riche succession, car il a des trésors immenses et un grand pays sous sa domination. Les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés et ont sous son autorité deux fonctions bien différentes. Quand ils sont assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi. Quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de dispenser d'accomplir la loi. Car tu sauras que la religion chrétienne est chargée d'une infinité de pratiques très difficiles. Et, comme on a jugé qu'il est moins aisé de remplir ses devoirs que d'avoir des évêques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti pour l'utilité publique. Ainsi, si l'on ne veut pas faire le ramazan, si on ne veut pas s'assujettir aux formalités des mariages, si on veut rompre ses vœux, si on veut se marier contre les défenses de la loi, quelquefois même si on veut revenir contre son serment, on va à l'évêque ou au pape qui donne aussitôt la dispense. Les évêques ne font pas des articles de foi de leur propre mouvement. Il y a un nombre infini de docteurs, la plupart d'Hervis, qui soulèvent entre eux 1000 questions nouvelles sur la religion. On les laisse disputer longtemps, et la guerre dure jusqu'à ce qu'une décision vienne la terminer. Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui de Christ. Ceux qui mettent au jour quelques propositions nouvelles sont d'abord appelés hérétiques. Chaque hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le mot de ralliement. Mais n'est hérétique qui ne veut. Il n'y a qu'à partager le différent par la moitié et donner une distraction à ceux qui accusent d'hérésie. Et quelle que soit la distinction, intelligible ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler orthodoxe. Ce que je te dis est bon pour la France et l'Allemagne, car j'ai ouï dire qu'en Espagne et en Portugal, il y a de certains dervis qui n'entendent point raillerie et qui font brûler un homme comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a toujours prié Dieu avec de petits grains de bois à la main, qui a porté sur lui deux morceaux de drap attachés à deux rubans, et qui a été quelquefois dans une province qu'on appelle la Galice. Sans cela, un pauvre diable est bien embarrassé. Quand il jurerait comme un païen qu'il est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer d'accord des qualités et le brûler comme hérétique. Il aurait beau donner sa distinction, point de distinction. Il serait en cendres avant que l'on eût seulement pensé à l'écouter. Les autres juges présument qu'un accusé est innocent. Ceux-ci le présument toujours coupable. Dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur. Apparemment parce qu'ils croient les hommes mauvais. Mais d'un autre côté, ils en ont si bonne opinion qu'ils ne les jugent jamais capables de mentir, car ils reçoivent le témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession infâme. Ils font dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont revêtus d'une chemise de soufre, et leur disent qu'ils sont bien fâchés de les voir si mal habillés, qu'ils sont doux, qu'ils abhorrent le sang, et sont au désespoir de les avoir condamnés. Mais pour se consoler, ils confisquent tous les biens de ces malheureux à leur profit. Heureuse la terre qui est habitée par les enfants des prophètes. Ces tristes spectacles y sont inconnus. La sainte religion que les anges y ont apportée se défend par sa vérité même. Elle n'a point besoin de ces moyens violents pour se maintenir. À Paris, le 4 de la lune de Chalval, 1712. Lettre 30. Rica au même à Smyrne. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. » Chose admirable. Je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m'avoir pas assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Et quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurai quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah, monsieur est persan! C'est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on être persan ?» À Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712. Lettre 31. Rédit à Usbek, à Paris. Je suis à présent à Venise, mon cher Usbek. On peut avoir vu toutes les villes du monde et être surpris en arrivant à Venise. On sera toujours étonné de voir une ville, des tours et des mosquées sortir de dessous l'eau, et de trouver un peuple innombrable dans un endroit où il ne devrait y avoir que des poissons. Mais cette ville profane manque du trésor le plus précieux qui soit au monde, c'est-à-dire d'eau vive. Il est impossible d'y accomplir une seule ablution légale. Elle est en abomination à notre saint prophète. Il ne la regarde jamais du haut du ciel qu'avec colère. Sans cela, mon cher Usbek, je serais charmé de vivre dans une ville où mon esprit se forme tous les jours. Je m'instruis des secrets du commerce, des intérêts des princes, de la forme de leur gouvernement. Je ne néglige pas même les superstitions européennes. Je m'applique à la médecine, à la physique, à l'astronomie. J'étudie les arts. Enfin, je sors des nuages qui couvraient mes yeux dans le pays de ma naissance. À Venise, le 16 de la lune de Chalval, 1712. Lettre 32. Rika à... J'allais l'autre jour voir une maison où l'on entretient environ 300 personnes assez pauvrement. J'eus bientôt fait, car l'église et les bâtiments ne méritent pas d'être regardés. Ceux qui sont dans cette maison étaient assez gais. Plusieurs d'entre eux jouaient aux cartes ou à d'autres jeux que je ne connais point. Comme je sortais, un de ces hommes sortait aussi, et m'ayant entendu demander le chemin du Marais, qui est le quartier le plus éloigné de Paris, « J'y vais, me dit-il, et je vous y conduirai, suivez-moi. » Il me mena à merveille, me tira de tous les embarras et me sauva adroitement des carrosses et des voitures. Nous étions près d'arriver quand la curiosité me prit. « Mon bon ami, lui dis-je, ne pourrais-je point savoir qui vous êtes ?»« Je suis aveugle, monsieur, me répondit-il. « Comment ? Lui dis-je, vous êtes aveugle ? Et que ne priez-vous cet honnête homme qui jouait aux cartes avec vous de nous conduire ?»« Il est aveugle aussi, me répondit-il. Il y a 400 ans que nous sommes 300 aveugles dans cette maison où vous m'avez trouvé. Mais il faut que je vous quitte. Voilà la rue que vous demandiez. Je vais me mettre dans la foule. J'entre dans cette église où, je vous jure, j'embrasserai plus les gens qu'ils ne m'embrasseront. » À Paris, le 17 de la lune de Chalval, 1712. Lettre 33. Usbek à Rédi, à Venise. Le vin est si cher à Paris, par les impôts que l'on y met, qu'il semble qu'on ait entrepris d'y faire exécuter les préceptes du divin Alcoran qui défend d'en boire. Lorsque je pense aux funestes effets de cette liqueur, je ne puis m'empêcher de la regarder comme le présent le plus redoutable que la nature ait fait aux hommes. Si quelque chose a flétri la vie et la réputation de nos monarques, ça a été leur intempérance. C'est la source la plus empoisonnée de leurs injustices et de leurs cruautés. Je le dirai à la honte des hommes. La loi interdit à nos princes l'usage du vin, et ils en boivent avec un excès qui les dégrade de l'humanité même. Cet usage, au contraire, est permis aux princes chrétiens, et on ne remarque pas qu'ils leur fassent faire aucune faute. L'esprit humain est la contradiction même. Dans une débauche licencieuse, on se révolte avec fureur contre les préceptes, et la loi, faite pour nous rendre plus justes, ne sert souvent qu'à nous rendre plus coupables. Mais, quand je désapprouve l'usage de cette liqueur qui fait perdre la raison, je ne condamne pas de même ces boissons qui l'égaient. C'est la sagesse des Orientaux de chercher des remèdes contre la tristesse avec autant de soin que contre les maladies les plus dangereuses. Lorsqu'il arrive quelque malheur à un Européen, il n'a d'autre ressource que la lecture d'un philosophe qu'on appelle Sénèque. Mais les Asiatiques, plus sensés qu'eux et meilleurs physiciens en cela, prennent des breuvages capables de rendre l'homme gai et de charmer le souvenir de ses peines. Il n'y a rien de si affligeant que les consolations tirées de la nécessité du mal, de l'inutilité des remèdes, de la fatalité du destin, de l'ordre de la providence et du malheur de la condition humaine. C'est se moquer de vouloir adoucir un mal par la considération que l'on est né misérable. Il vaut bien mieux enlever l'esprit hors de ses réflexions et traiter l'homme comme sensible au lieu de le traiter comme raisonnable. L'âme, unie avec le corps, en est sans cesse tyrannisée. Si le mouvement du sang est trop lent, si les esprits ne sont pas assez épurés, s'ils ne sont pas en quantité suffisante, nous tombons dans l'accablement et dans la tristesse. Mais si nous prenons des breuvages qui puissent changer cette disposition de notre corps, notre âme redevient capable de recevoir des impressions qui l'égaient, et elle sent un plaisir secret de voir sa machine reprendre, pour ainsi dire, son mouvement et sa vie. À Paris, le 25 de la lune de Zilkadé, 1713. Lettre 34. Usbek à Ibn à Smyrne. Les femmes de Perse sont plus belles que celles de France, mais celles de France sont plus jolies. Il est difficile de ne point aimer les premières et de ne se point plaire avec les secondes. Les unes sont plus tendres et plus modestes, les autres sont plus gaies et plus enjouées. Ce qui rend le sang si beau en Perse, c'est la vie réglée que les femmes y mènent. Elles ne jouent ni ne veillent, elles ne boivent pas de vin et ne s'exposent presque jamais à l'air. Il faut avouer que le sérail est plutôt fait pour la santé que pour les plaisirs. C'est une vie unie qui ne pique point. Tout s'y ressent de la subordination et du devoir. Les plaisirs même y sont graves et les joies sévères, et on ne les goûte presque jamais que comme des marques d'autorité et de dépendance. Les hommes mêmes n'ont pas en Perse la gaieté qu'ont les Français. On ne leur voit point cette liberté d'esprit et cet air content que je trouve ici dans tous les états et dans toutes les conditions. C'est bien pis en Turquie, où l'on pourrait trouver des familles où, de père en fils, personne n'a ri depuis la fondation de la monarchie. Cette gravité des Asiatiques vient du peu de commerce qu'il y a entre eux. Ils ne se voient que lorsqu'ils y sont forcés par la cérémonie. L'amitié, ce doux engagement du cœur, qui fait ici la douceur de la vie, leur est presque inconnu. Ils se retirent dans leur maison, où ils trouvent toujours une compagnie qui les attend, de manière que chaque famille est, pour ainsi dire, isolée. Un jour que je m'entretenais là-dessus avec un homme de ce pays-ci, il me dit: Ce qui me choque le plus dans vos mœurs, c'est que vous êtes obligé de vivre avec des esclaves, dont le cœur et l'esprit se sentent toujours de la bassesse de leurs conditions. Ces gens lâches affaiblissent en vous les sentiments de la vertu que l'on tient de la nature, et ils les ruinent depuis l'enfance qu'ils vous obsèdent. Car enfin, défaites-vous des préjugés. Que peut-on attendre de l'éducation qu'on reçoit d'un misérable qui fait consister son honneur à garder les femmes d'un autre, et s'enorgueillit du plus vil emploi qui soit parmi les humains, qui est méprisable par sa fidélité même, qui est la seule de ses vertus, parce qu'il y est porté par envie, par jalousie et par désespoir, qui, brûlant de se venger des deux sexes dont il est le rebut, consent à être tyrannisé par le plus fort, pourvu qu'il puisse désoler le plus faible, qui, tirant de son imperfection, de sa laideur et de sa difformité, tout l'éclat de sa condition, n'est estimé que parce qu'il est indigne de l'être, qui, enfin, rivé pour jamais à la porte où il est attaché, plus dur que les gonds et les verrous qui la tiennent, se vante de 50 ans de vie dans ce poste indigne, où, chargé de la jalousie de son maître, il a exercé toute sa bassesse. À Paris, le 14 de la lune de Zilager, 1713. Lettre 35. Usbek à Jemshid, son cousin. Que penses-tu des chrétiens, sublime Dervi? Crois-tu qu'au jour du jugement, ils seront comme les infidèles turcs, qui serviront d'âne aux juifs et les mèneront au grand trot en enfer? Je sais bien qu'ils n'iront point dans le séjour des prophètes et que le grand Ali n'est point venu pour eux. Mais, parce qu'ils n'ont pas été assez heureux pour trouver des mosquées dans leur pays, crois-tu qu'ils soient condamnés à des châtiments éternels et que Dieu les punisse pour n'avoir pas pratiqué une religion qu'il ne leur a pas fait connaître? Je puis te le dire, j'ai souvent examiné ces chrétiens. Je les ai interrogés pour voir s'ils avaient quelque idée du grand Ali, qui était le plus beau de tous les hommes. J'ai trouvé qu'ils n'en avaient jamais ouï parler. Ils ne ressemblent point à ces infidèles que nos saints prophètes faisaient passer au fil de l'épée, parce qu'ils refusaient de croire aux miracles du ciel. Ils sont plutôt comme ces malheureux qui vivaient dans les ténèbres de l'idolâtrie avant que la lumière divine vînt éclairer le visage de notre grand prophète. D'ailleurs, si l'on examine de près leur religion, on y trouvera comme une semence de nos dogmes. J'ai souvent admiré les secrets de la Providence, qui semble les avoir voulu préparer par là à la conversion générale. J'ai ouï parler d'un livre de leur docteur intitulé « La polygamie triomphante », dans lequel il est prouvé que la polygamie est ordonnée aux chrétiens. Leur baptême est l'image de nos ablutions légales, et les chrétiens n'errent que dans l'efficacité qu'ils donnent à cette première ablution, qu'ils croient devoir suffire pour toutes les autres. Leurs prêtres et leurs moines prient comme nous, 7 fois le jour. Ils espèrent de jouir d'un paradis où ils goûteront 1000 délices par le moyen de la résurrection des corps. Ils ont, comme nous, des jeûnes marqués, des mortifications avec lesquelles ils espèrent fléchir la miséricorde divine. Ils rendent un culte aux bons anges et se méfient des mauvais. Ils ont une sainte crédulité pour les miracles que Dieu opère par le ministère de ses serviteurs. Ils reconnaissent, comme nous, l'insuffisance de leurs mérites et le besoin qu'ils ont d'un intercesseur auprès de Dieu. Je vois partout le mahométisme, quoique je n'y trouve point Mahomet. On a beau faire, la vérité s'échappe et perce toujours les ténèbres qui l'environnent. Il viendra un jour où l'Éternel ne verra sur la terre que de vrais croyants. Le temps qui consume tout détruira les erreurs mêmes. Tous les hommes seront étonnés de se voir sous le même étendard. Tout, jusque à la loi, sera consommé. Les divins exemplaires seront enlevés de la terre et portés dans les célestes archives. À Paris, le 20 de la lune de Zilager, 1713. Lettre 36. Usbek à Rédi. Le café est très en usage à Paris. Il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles. Dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent. Au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croit qu'il en a 4 fois plus que lorsqu'il y est entré. Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie et qu'ils amusent leur talent à des choses puériles. Par exemple, lorsque j'arrivais à Paris, je les trouvais échauffés sur une dispute la plus mince qu'ils se puissent imaginer. Il s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec dont, depuis 2000 ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort. Les deux parties avouaient que c'était un poète excellent. Il n'était question que du plus ou du moins de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux, mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres. Voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement de part et d'autre des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n'admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. « Si quelqu'un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller devant un de ces défenseurs du poète grec attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé. » Et je crois que ce zèle, si délicat sur la réputation des morts, s'embraserait bien pour défendre celle des vivants. Mais quoi qu'il en soit, ajoutai-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimitié des censeurs de ce poète, que le séjour de 2000 ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si implacable. Ils frappent à présent des coups en l'air. Mais que serait-ce si leur fureur était animée par la présence d'un ennemi? Ceux dont je te viens de parler disputent en langue vulgaire, et il faut les distinguer d'une autre sorte de disputeurs, qui se servent d'une langue barbare, qui semble ajouter quelque chose à la fureur et à l'opiniâtreté des combattants. Il y a des quartiers où l'on voit comme une mêlée noire et épaisse de ces sortes de gens. Ils se nourrissent de distinctions. Ils vivent de raisonnements et de fausses conséquences. Ce métier où l'on devrait mourir de faim ne laisse pas de rendre. On a vu une nation entière chassée de son pays, traverser les mers pour s'établir en France, n'emportant avec elle, pour parer aux nécessités de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Adieu. À Paris, le dernier de la lune de Zilager, 1713. Lettre 37. Usbek à Ibben, à Smyrne. Le roi de France est vieux. Nous n'avons point d'exemple dans nos histoires d'un monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu'il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir. Il gouverne avec le même génie sa famille, sa cour, son état. On lui a souvent entendu dire que de tous les gouvernements du monde, celui des Turcs, ou celui de notre auguste sultan, lui plairait le mieux, tant il fait cas de la politique orientale. J'ai étudié son caractère, et j'y ai trouvé des contradictions qu'il m'est impossible de résoudre. Par exemple, il a un ministre qui n'a que 18 ans, et une maîtresse qui en a 80. Il aime sa religion, et il ne peut souffrir ceux qui disent qu'il la faut observer à la rigueur. Quoiqu'il fuie le tumulte des villes, et qu'il se communique peu, il n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir qu'à faire parler de lui. Il aime les trophées et les victoires, mais il craint autant de voir un bon général à la tête de ses troupes qu'il aurait sujet de le craindre à la tête d'une armée ennemie. Il n'est, je crois, jamais arrivé qu'à lui d'être, en même temps, comblé de plus de richesses qu'un prince n'en saurait espérer, et accablé d'une pauvreté qu'un particulier ne pourrait soutenir. Il aime à gratifier ceux qui le servent, mais il paye aussi libéralement les assiduités, ou plutôt l'oisiveté de ses courtisans, que les campagnes laborieuses de ses capitaines. Souvent, il préfère un homme qui le déshabille ou qui lui donne la serviette lorsqu'il se met à table, à un autre qui lui prend des villes ou lui gagne des batailles. Il ne croit pas que la grandeur souveraine doive être gênée dans la distribution des grâces. Et sans examiner si celui qu'il comble de bien est homme de mérite, il croit que son choix va le rendre tel. Aussi lui a-t-on vu donner une petite pension à un homme qui avait fui deux lieues, et un beau gouvernement à un autre qui en avait fui quatre. Il est magnifique, surtout dans ses bâtiments. Il y a plus de statues dans les jardins de son palais que de citoyens dans une grande ville. Sa garde est aussi forte que celle du prince devant qui les trônes se renversent. Ses armées sont aussi nombreuses, ses ressources aussi grandes et ses finances aussi inépuisables. À Paris, le 7 de la lune de Maharram, 1713.